Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Bonjour, monsieur.
J'ai décidé de ne pas rester.
Mais comment ça, vous avez décidé de ne pas rester ?
Je suis entré, mais j'ai décidé de ne pas rester, alors...
Mais... Désolé, monsieur, je...
J'ai décidé d'annuler mon voyage, alors...
Je regrette, monsieur, vous devez vous acquitter des 4 dollars.
Mais je viens d'entrer. Je viens d'entrer, putain.
Oui, mais il y a un tarif minimum qui est de 4 dollars. C'est le tarif pour une journée de parking.
Ah ouais, tu dois croire que tu incarnes l'autorité dans ta cage avec ce putain d'uniforme à la con, hein? Le roi costume cravate, ta pauvre connard de merde. Regarde-toi, toute ta vie, ça se résume à ça. Chef de ta barrière à la con. Tiens, les voilà tes dollars, misérable étron.
Well, I was I really didn't think of myself as a composer at that time. I was
à l'époque. Je ne me considérais pas comme un compositeur. Je jouais dans des groupes à New York, dans des boîtes de nuit, du rock and roll et d'autres choses. J'ai connu quelqu'un qui suivait un de mes groupes et qui était monteur son pour le cinéma. Il est venu me voir un jour et m'a dit « Je travaille sur un film qui est fait par un jeune réalisateur. Il cherche un compositeur mais n'a pas trop de budget. » Tu serais intéressé ? Et j'ai répondu, bien sûr, pourquoi pas ? J'ai rencontré l'équipe. Ils m'ont fait voir certains de leurs films. Moi, je n'avais rien à leur proposer parce que je n'avais jamais fait de musique de film. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai écrit 2 ou 3 thèmes au piano ou au synthé et je leur ai proposé. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. Et là, c'était les frères Cohen qui faisaient leur premier film, Blood Simple. Et ils voulaient que je travaille avec eux. C'est comme ça que j'ai débuté dans la composition pour le cinéma. Je ne pensais pas que j'allais le refaire par la suite, parce que les frères Cohen m'avaient dit que leur film n'allait peut-être pas être distribué et ne sortirait peut-être jamais. Finalement, il est sorti. Et ensuite, d'autres gens m'ont demandé de composer pour leur film. Puis Joel et Ethan Cohen ont fait un nouveau film et m'ont demandé de travailler pour eux. Et je suis devenu compositeur, complètement par hasard.
Thank you. to take this.
What do you mean? Just doing my job. Call it a fringe benefit.
How long are you watching?
Most of the night. They'd rest every few minutes and get started again. Yeah. Quite some.
I got a job for you. It's in reference to that gentleman or my wife. The more I think about it, the more irritated I get.
Yeah? Just how irritated are you?
J'avais deux problèmes. D'une part, je ne savais pas comment composer une musique de film d'un point de vue technique, et les frères Cohen non plus. Et d'autre part, je n'y connaissais pas grand-chose sur le plan esthétique. Pour réparer ça, j'ai commencé à regarder des films que j'aimais en faisant plus attention à la musique. Le premier film que j'ai regardé dans cette optique, quand j'ai commencé mon travail sur Blood Simple, ça a été Les Oiseaux d'Hitchcock. Et c'était très intéressant, parce qu'en regardant le film, à la fin de chaque scène importante, je m'apercevais que j'avais oublié d'écouter la musique. Puis en remettant la scène, je me rendais compte qu'il n'y avait pas vraiment de musique à proprement parler, mais juste de la musique concrète ou des effets sonores. Et c'était une leçon intéressante. Et puis, pour en revenir au film des frères Cohen, les choses se faisaient au fur et à mesure. Je leur avais donné quelques thèmes que j'avais composés pour la plupart juste après avoir vu le film. Et finalement, nous les avons utilisés. Mais nous avons développé des idées autour de ces thèmes. Au départ, les frères Cohen s'imaginaient que la musique du film serait électronique. C'était très à la mode à l'époque et c'était aussi moins cher à réaliser. Mais quand ils m'ont entendu jouer les thèmes au piano, ils ont pensé « Ah, mais c'est très humain comme ça, très émouvant. » Ce serait peut-être intéressant de les laisser comme ça, parce que le film lui-même est très froid et un peu brutal. On s'est donc éloigné de l'aspect électronique pour aller davantage vers du piano. Ensuite, quand j'ai terminé la musique du film, ils ont passé une année de plus à travailler sur le montage. Joel prenait une musique que j'avais écrite pour une scène et l'essayait sur une autre, la découpait. Cette bande originale s'est donc construite de façon très évolutive. Nous sommes partis d'une idée et nous nous en sommes beaucoup éloignés jusqu'au résultat final.
Bon, le voilà ton pognon. Maintenant, où est ma fille? Espèce de sale petit voyou.
Nom du Dieu, d'où tu sors, toi? Nom du Dieu de merde, tu sors d'où?
Tiens, j'ai ton pognon. Ma fille est où, alors?
J'en ai plein le cul de vos salades, merde. Pose-moi cette putain de mallette.
Je veux ma fille en échange.
Tu fais chier, merde. Ouais, Jerry. Il est même pas foutu de suivre les instructions.
Ouais, ma fille, bon sang. Pas de jean, pas d'argent.
Tu poses ce putain de blé.
Ouais, jean. Si t'as pas de jean, t'as pas d'argent.
Et je rêve, là. Tu te fous de ma gueule. T'es content maintenant, connard? Qu'est-ce que vous avez tous? Vous êtes cons, putain! Tu me tires dessus, sale con!
Quand j'ai commencé, par exemple pour le film Arizona Junior, j'ai été très aidé par l'œuvre d'Ennio Morricone. En particulier dans les westerns spaghetti, il a été capable d'associer des sons qu'on n'avait jamais entendus ensemble auparavant pour créer un univers sonore nouveau. Et ça m'a aussi donné des idées pour composer une bande originale avec peu de moyens, sans avoir besoin d'un orchestre. Il suffisait de trouver le bon banjo ou le bon yodeler pour obtenir un son unique dans le film. À mes débuts, j'ai donc trouvé de l'inspiration dans cet aspect-là de l'œuvre de Morricone. Beaucoup de ses musiques sont également peu communes en termes de mélodie. Elles ne semblent pas se rapporter à une tradition classique, même si l'on sait très bien que c'était un compositeur instruit. Et ça m'a inspiré. Ensuite, au fil de ma carrière, je me suis intéressée à d'autres compositeurs. Pour trouver l'inspiration pour Fargo, j'ai écouté les compositions de Miklos Rosa pour le film noir. Parce que c'est un élément que je voulais utiliser pour le film, que ce soit sérieux, même quand on voit des bêtises à l'écran, que la musique reste toujours sérieuse. Et je pense que l'œuvre de Miklos Rosa est un bon modèle pour ça. Sinon, mes influences varient souvent. J'ai souvent l'œuvre de Bernard Herrmann à l'esprit. Parce qu'il a réussi à obtenir un son nouveau avec l'orchestre. Moi, je ne suis pas aussi doué que lui pour cela, mais j'essaie d'apprendre et de m'inspirer de son travail.
We need to know what we're calling it for here.
You need to call it. I can't call it for you.
Pour deux mecs qui ont été récupérés par toute une intelligentsia, qui ont essayé de transformer les frères Coen comme autre chose que des cinéastes de genre.
I didn't put nothing up.
Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it.
Les mecs, ils arrivent, ils te font No Country for All Men, qui est un putain de film d'action, un putain de western, mais un film d'action existentiel.
And you have to say, call it.
Look, I need to know what I stand to win.
Everything.
How's that?
You stand to win everything, call it.
Attention, on attaque cette émission non seulement avec le dernier film en date, de mes réalisateurs préférés, ce qui en soi suffit déjà à m'émoustiller les coronesses, mais surtout avec un véritable chef-d'œuvre qui s'impose comme leur meilleur film depuis Barton Fink, rien que ça. Je parle bien sûr du ténébreux No Country for Old Men des frères Coen qui sort en salle le 23 janvier. Ou comment le cinéma de genre à travers un pur récit d'actionneur codé peut interpeller l'histoire, la nature, la mythologie et comme dirait notre championne nationale de saut en hauteur sans le comprendre, une certaine politique de la civilisation. Déjà, je préviens un truc, c'est super important, surtout sur les frères Coen. J'intime aux gens, là, voilà, tout de suite, vous prenez 10 secondes, vous prenez une cassette vidéo vierge, vous la mettez dans le magnétoscope et vous enregistrez l'émission. Comme ça, vous pouvez remater l'émission quand vous avez vu le film. C'est mieux parce qu'en plus, je dis rien sur le film en lui-même, je ne fais que de l'analyse. Et je me la fume râler un petit peu. Tiré d'un célèbre roman noir de Cormac McCarthy, No Country for Old Men s'impose pour les frères Coen comme un film somme. Une œuvre qui clôt avec Miller's Crossing et Barton Fink une forme de triptyque de l'apocalypse, mais qui embrasse tous leurs thèmes de prédilection. Une œuvre qui revendique une nouvelle fois leur amour immodéré pour le cinéma de genre, tout en prenant un plaisir ludique et déférent à le dynamiter. C'est un cinéma qui me pose des questions. Par l'image et la réelle ambiguïté de l'être humain, le réel devenir chaotique du monde, de réelles questions métaphysiques, philosophiques, politiques, existentielles, complexes, je les trouve dans le cinéma de genre. Je les trouve dans le cinéma genre parce que c'est un cinéma qui ne m'édicte pas des dogmes. Donner des clés, mais ne pas donner des réponses, c'est ce que font les Coen. C'est cette approche en trois temps qui est la quintessence du cinéma des frères Coen et qui se retrouve dans No Country for Old Men, film jumeau de 100%, dont il emprunte la diégèse et la logique structurelle pour mieux peindre une tentative de libération avortée. Même Amérique rurale, même personnage enferré dans l'espace sans horizon d'une nouvelle frontière oubliée, même fuite en avant vers une liberté impossible. En narrant la marche funèbre d'un pauvre cow-boy moderne qui dérobe un magot avant d'être poursuivi par un flic anachronique et désabusé et un tueur sanguinaire, nouveau motard de l'apocalypse incarnant la barbarie la plus inhumaine, les Coen témoignent de nouveau de l'aliénation du monde contemporain, de la marchandisation des rapports humains, du culte de l'argent comme seul idéal de vie, de la peur insondable de l'autre, mais avant tout, de la fin des mythes fondateurs de l'Amérique. Tu vas avoir dans une chambre d'hôtel le cow-boy qui est là, il va entendre des bruits en off, de Bardem qui est en train de s'approcher, tu vois jamais Bardem dans le champ, tu vois la caméra qui suit le bruit en off, et il t'orchestre des scènes de tension mais hallucinantes, c'est-à-dire que chaque scène des confrontations avec Bardem sont monstrueuses, t'es comme ça sur ton truc, et les mecs ne sont jamais, jamais dans le cadre ensemble. Chaque cadre est super bien pensé pour cloisonner les mecs, pour que l'un réagisse en fonction de ce qu'il croit savoir de l'autre. C'est très frère Coen, je veux dire 100%, c'était conçu un petit peu de la même manière. La peur est source de tout. On a beau être dans l'espace des origines, la nouvelle frontière, l'espace américain qui est sans horizon, qui est gigantesque, les hommes sont cloisonnés. Film crépusculaire par essence, qui investit les mécanismes les plus codés du cinéma de genre avant de les vriller de l'intérieur, le film suit des personnages allégoriques perdus d'avance et ne donne d'autre choix au spectateur que de s'identifier à un flic désenchanté, témoin passif du devenir chaotique du monde qui fantasme le retour à des valeurs et des mythes archaïques avant de comprendre qu'il n'a plus sa place dans cette société inhumaine.
Call it. Call it, yes. For what? Just call it.
Monsieur Cockburn, pendant les 4 ans où vous avez été marshal, combien d'hommes avez-vous abattu?
Abattu et achevé?
Limitons-nous aux morts, le chiffre sera plus raisonnable.
Monsieur Cockburn?
Qu'est-ce que tu veux, toi?
Je cherche l'homme qui a tué mon père. Il s'appelle Tom Chaney. Et j'ai besoin de quelqu'un pour le capturer.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Matty Ross.
On a fréquenté beaucoup des chasseurs de primes.
Ça, c'est une question idiote. J'ai 14 ans. Marshall Cockburn. Pouvons-nous partir dès cet après-midi?
Nous?
Je viens avec vous.
Félicitations, t'es passé de l'état de chasseur de primes à celui de gouvernante.
You can run on for a long time.
Rentre chez toi.
Je vous aime pas. Je rentrerai pas tant que j'aurai pas eu Chaney mort ou vif.
Aidez-moi!
Je peux rien pour toi, fiston.
Joel et Ethan, I'll say right away, they don't.
La première chose à savoir, c'est que les frères Cohen n'aiment pas trop analyser les films sur lesquels ils travaillent. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas discuter, on discute tout le temps de leurs films. Mais ils détestent devoir dire « cette scène signifie ceci ou signifie cela ». Ils détestent en faire une analyse sémantique. Ils préfèrent analyser la syntaxe. Par exemple, ils vont dire « on va couper ici pour accélérer le rythme et arriver là ». Donc nous parlons davantage du montage et de ce type de choses.
The montage and things like that, but still, we find at some point in most of the films.
Pourtant, il y a toujours un moment dans chaque film où nous sommes obligés de nous poser la question de quoi parle ce film et que peut y apporter la musique. Par exemple, dans le film True Grit, qui est, je crois, leur dernier film qui est sorti. On est arrivé au bout du montage et de mon travail de composition. Et j'étais en train de composer pour les toutes dernières scènes. Ce sont les scènes où le Marshall porte la jeune fille qui s'est fait mordre par un serpent. Elle va peut-être mourir et il traverse le désert en la portant dans ses bras. Je testais différentes approches et rien ne me semblait fonctionner. Parce que, quelle que soit la musique que j'allais choisir, il fallait qu'elle amène le film à son point culminant. C'est l'apogée du film. Et finalement, j'ai dû demander aux frères Cohen que signifie cette scène? De quoi parle-t-on? Et ils se sont aperçus qu'ils ne s'étaient pas eux-mêmes posé la question. Nous nous sommes rendus compte ensuite que cette scène représentait la relation entre cet homme et cette jeune fille. Et bien que les deux personnages aient été côte à côte tout au long du film, ils n'étaient pas réellement liés, parce qu'ils se disputent pendant la majeure partie de l'histoire. Et nous avons compris que ce moment devait montrer l'affection véritable qui liait ces deux personnages, alors que ce lien n'était pas établi jusque-là. Nous avons dû revenir en arrière et j'ai dû écrire un nouveau thème, le placer à d'autres moments du film, et ça allait être le thème symbolisant le lien qui les unit. Les frères Cohen ont même tourné quelques plans additionnels où le personnage de Jeff Bridge échange des regards quand elle se fait mordre par le serpent. Et c'était pour montrer quelque chose de leur relation. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin pu écrire la musique des dernières scènes et que cela a pris tout son sens. Mais c'est presque toujours en dernier recours que nous posons la question « Que signifie ce film ?»
For the first time in the history of the Cannes Film Festival, one film has swept all the major awards. Barton Fink.
Welcome to Los Angeles, Mr. Fink.
Excuse me?
Howdy, neighbor.
Are you a writer, Mr. Fink?
Actually, I'm writing for the pictures now.
Oh, it's an exciting time, then.
Is that him? Is that Bob Fink?
Say whatever the hell you want. The writer is king here at Capitol Pictures. We're only interested in one thing. Can you tell a story, Bond? Can you make us laugh? Can you make us cry? Can you make us want to break out? Enjoy a song. Is that more than one thing? Okay.
Devil on the canvas, 12 apple, take one.
Just having trouble getting started.
Wallace Beery, wrestling picture. What do you need, a roadmap?
We all need understanding, Barton.
Oh, you'll lick this picture business. Believe me, you got a head on your shoulders. And what is it they say? Where there's a head, there's hope.
I'm sitting in the audience. The lights go down. Capitol logo comes up.
Hey,
LAPD.
Got some questions we want to ask you.
Sorry, I'm in trouble. Something horrible's happened.
Female Caucasian, about 30 years old. Ever seen Munt with anyone fits that description?
But, you know, with the head still on.
Well, Barton, you might say I sell peace of mind.
Right now, the contents of your head are the property of Capitol Pictures.
But Charlie, why me?
Because you don't listen!
I'm a writer.
Look upon me!
A new film by Joel and Ethan Coen.
Carter Bowell, dont on écoutait également le thème de fin, de musique de fin de Barton Fink, un de leurs films, un des films les plus célèbres des frères Cohen, qui obtint, donc je le disais tout à l'heure, la Palme d'Or à Cannes, ainsi que un prix du scénario et un prix de l'interprétation. Donc ça a été un vrai triomphe avec Roman Polanski, président du jury à l'époque, qui avait voulu faire truster, qui était donc le seul film qu'il aimait dans la compétition, semble-t-il, c'était Barton Fink. Donc il avait mis le paquet, si j'ose dire.
The Coen Brothers' next film, which is called Inside Llewyn Davis, it takes place in.
Le prochain film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, se déroule dans le milieu de la scène musicale folk, dans ce quartier de New York qu'on appelle Greenwich Village. Pendant les années 50-60. Il parle donc de musiciens et il joue souvent pendant le film. Les frères Cohen ne voulaient pas qu'il y ait de musique en plus de celle qui est déjà jouée à l'écran. C'était leur idée pour rester authentique et montrer l'importance de cette musique à l'époque. Ce n'était pas si étrange de leur part parce qu'ils avaient déjà fait des films dont la musique était le moteur. Par exemple, O Brothers. Même si pour O Brothers, j'avais quand même composé des morceaux pour des scènes en particulier. Mais dans le cas de Inside Llewyn Davis, ils voulaient quelque chose d'épuré, sans aucune musique additionnelle. Je présumais donc que je n'allais pas travailler sur le film. Mais parfois, cela ne se passe pas comme prévu. Par exemple, pour Barton Fink, Joe m'avait dit qu'il ne voulait pas de musique. Mais finalement, j'avais composé un thème au piano, il l'avait trouvé utile au film et il l'avait gardé. Pour leur prochain film, ils voulaient vraiment faire sans musique additionnelle. Pourtant, il y avait dans le film des passages où les personnages ne jouent pas de musique à l'écran, parfois pendant 30 ou 40 minutes. Et quand les frères Cohen ont regardé le film et sont arrivés à ce passage, ils ont pris conscience qu'il manquait quelque chose à ce moment-là. Ils se sont dit, il nous faut un son qui change la façon de voir la scène. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, Carter, tu sais, il nous faut vraiment quelque chose. J'ai dit, quoi, de la musique ? Ils m'ont répondu, non, pas de musique. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ? Oh, on ne sait pas. Alors, je suis allée les voir en salle de montage, on a regardé le film et on a discuté. Il y avait leur monteur son, Skip Livesey, qui était déjà en train d'essayer de trouver une solution en utilisant des effets sonores, mais ça ne suffisait pas. J'ai fini par écrire une ébauche de musique et je leur ai envoyé. On en a discuté et tout ce que je leur proposais ne faisait que confirmer leur souhait de ne pas utiliser de musique.
Llewellyn?
Yeah.
What are you doing, baby?
Going out.
Going where?
Well, something I forgot to do, but I'll be back.
What are you going to do?
Well, I'm fixing to do something dumber than hell, but I'm going anyways. If I don't come back, you tell Mother I love her.
Your mother's dead, Llewellyn.
Well, then I'll tell her myself.
Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.